ces autels où la petite flamme rouge fait bouger les grands personnages des murs. Il a dû songer à la modestie de Sainte-Marie des Anges, d'une beauté différente, mais égale. Là où nous sommes, il s'est tenu et il a prié. Sur une des parois, il nous regarde, souriant, jeune, joyeux, avec son regard clair, son fin collier de barbe et ses oreilles largement ouvertes. La tradition veut qu'un moine inconnu de génie ait peint sur le mur ce visage mince, ses mains non encore trouées par les stigmates. Près de sa tête, son nom. F.R. Franciscus. Ni plus ni moins. Il n'est encore qu'un frère. Le frère de passage qu'on aime et dont on veut conserver ce souvenir. Ce dessin, que plus tard l'auteur de l'esquisse transformera en un grand portrait, qui nous est devenu si familier qu'il fera concurrence au François douloureusement émouvant de Cimabue. Mais Cimabue ne pouvait nous livrer qu'une image toute d'intuition. Alors que le François de Subiaco, terminé en 1223, nous le montre avant le voyage en Syrie qui le fera vieillir. On quitte cette forteresse mystique en traversant une longue cour où deux superbes corbeaux, mâles et femelles, semblent plongés dans des méditations coupées de brusques battements d'ailes, comme pour faire admirer le noir métallique de leurs plumes. De temps à autre, le mâle fait entendre un assez peu aimable croa. Lui et sa compagne sont là en souvenir de Saint-Benoît, qui les avait en amitié. Ils sont nombreux à traverser le ciel de leurs cris, rivalisant d'austérité dans leur mise avec les moines. Mais François devait les charmer et obtenir, comme à Bévagne, l'hommage d'un attroupement silencieux. Pour en revenir à son passage à Subiaco, il est intéressant de remarquer que, si les biographes n'en parlent pas, ils ne font pas fi du portrait que nous y laissa l'artiste inconnu. De nos jours, cette image est probablement la plus aimée de tous les admirateurs du saint, parce qu'elle correspond sans aucun doute à l'image qu'ils veulent se faire de lui. Un saint jeune, heureux et rayonnant. C'est là une sorte de canonisation populaire qui correspond à une vérité intérieure. Elle a ses raisons qui ne sont pas seulement sentimentales. Thomas de Celano nous le présente dès avant sa conversion comme un garçon exquis et le décrit avec une minutie de détails qui lève toute espèce de doute. La forme des oreilles, l'allongement du visage, la finesse de la bouche, tout y est, jusqu'à la gaieté du regard. Plus probante encore, une autre peinture dont on ne fait jamais mention et qui nous fait voir François derrière l'évêque d'Ostie, alors que ce dernier consacre la chapelle où se trouvent ses fresques. Le visage de François, nettement reconnaissable, nous fournit un trait supplémentaire qui n'a pas échappé à Celano, observateur des plus attentifs. C'est que les sourcils, au lieu d'être arqués, sont presque parfaitement droits. Que le premier portrait ait été retouché en 1223, cela est sûr. Mais la main de l'artiste a voulu conserver la juvénilité du modèle, et il faudra regarder de plus près quand nous arriverons à cette année-là. Nous aurons des surprises. Le damné arraché à Satan. Dans l'abondant florilège de ses miracles, François nous donne à choisir. Nous touche plus que tous les autres ceux qui accentuent sa ressemblance avec le Christ, lorsqu'en guérissant le corps, il guérit l'âme. Les dates sont incertaines, mais François vit et agit déjà dans l'éternité où les dates ne comptent plus. Souvenons-nous de l'histoire du plus méchant des lépreux dont il voulut avoir soin. Déjà dans la vie de François, il y a eu le plus célèbre de tous ses malades, celui du baiser aux lépreux qui marqua la libération du jeune converti et le donna pour toujours à Dieu. Mais il lui restait encore, après beaucoup d'autres, à soigner le plus cruellement déshérité de ces êtres voués à l'horreur. Jacques de Vitry disait d'eux qu'il fallait un courage de martyr pour braver leur puanteur et leur porter secours. Voyons ce que nous dit un très célèbre tertiaire franciscain dans sa Divine Comédie. Jamais palefrenier ne manie l'étrille avec autant de fureur, quand son maître l'attend, que ces damnés de leurs ongles se déchiraient pour soulager leur rage de démangeaison. Et leurs ongles arrachaient les squames de la peau comme un couteau écaillerait un scar, ou tout autre poisson aux écailles plus larges encore. Et Dante met